Bonjour Perlu, Olu. Oui, je vous propose à nos auditeurs donc d'aller partir en Haute-Loire, rejoindre le Père Olu qui est recteur de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation du Puy-en-Velay. Bonjour Père.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Alors je suis le Père Jean-Louis Colu, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Puy. Mais il y a aussi d'autres sanctuaires dans notre ville, hein, que ce soit le sanctuaire Saint-Joseph, le sanctuaire Saint-Michel, que ce soit le sanctuaire Saint-Jean-François des Riches, Saint-François Régis. Donc voilà, je suis recteur de ces ensembles de sanctuaires.
Merci. Alors justement, Père, et vous l'avez bien introduit, je reprendrai une petite dizaine de lignes juste avant qu'on développe et que vous nous présentiez le plus vieux sanctuaire d'Europe, Marial, bien sûr. Une partie de l'homélie de Mgr Crépy qui vous a mis en mission le 6 septembre 2020, je fais de toi un guetteur. Donc, on est dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Cette mission de guetteur, vous l'exercerez, cher Jean-Loïc, comme recteur des quatre sanctuaires qui vous sont confiés. Dans l'Église, les sanctuaires sont des lieux privilégiés où les pèlerins cherchent Dieu et viennent se mettre à son écoute. Ici au Puy, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Michel et de Saint Jean-François Régis, ils viennent confier au Seigneur ce qui leur tient à cœur, leurs intentions de prière, leurs joies et leurs difficultés. Les sanctuaires sont des havres de paix où le pèlerin fatigué peut venir se reposer, mais aussi des lieux de ressourcement d'où le pèlerin plein de vigueur et de confiance se met en marche et trace un chemin nouveau. Le recteur, avec ses collaborateurs et collaboratrices, porte le souci d'offrir à tous ceux qui passent l'accueil, l'écoute, le soutien matériel comme spirituel de tout ce qui peut aider à découvrir ou à approfondir le message spirituel que porte chaque sanctuaire. En ce sens, ils sont aussi ces guetteurs attentifs à toute personne de passage qui porte en elle une attente, un désir, une soif de Dieu. Voilà votre belle mission et je vous laisse la parole, mon Père.
Merci beaucoup. Bah oui, c'est vrai qu'on a un sanctuaire marial qui remonte dans le temps. Il faut remonter vers 430-431, où tout commence ici au Puy, parce qu'il y a une femme qui est malade et qui monte là-haut, sur le mont Anis. Elle se couche sur une grande pierre. Et durant son sommeil, eh bien voici qu'elle a l'apparition de la Vierge Marie entourée des anges qui lui demandent de bâtir une chapelle. Et la tradition veut que, bien qu'on soit au mois de juillet, eh bien, il y a la neige qui est tombée à ce moment-là et un cerf a délimité l'emplacement du premier sanctuaire. Alors, l'évêque a demandé à ce qu'on mette tout de suite, puisque la neige ne pouvait que fondre, eh bien, mettre des branches de buissons épineux. Et dès le lendemain, ceux-ci étaient fleuris et sentaient bon. Et c'est ainsi que, eh bien, tout a commencé ici au Puy-en-Velay. Oui.
Non, c'est un bon démarrage et vraiment c'est un bel endroit le Puy-en-Velay. Je vous laisse développer.
Alors, ce qui est marquant aussi, ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'on parle de 430, 431. C'est au même moment que la basilique majeure Sainte-Marie de Rome. Il y a la même origine. Et puis il y a un autre moment qui est cette rencontre des évêques au concile d'Éphèse à la même période. Et c'est à ce concile d'Éphèse que toute une discussion sur Jésus, est-il le vrai Dieu ? Et bien on affirme, oui, il est vrai Dieu. Et à ce moment-là a été dit que, étant donné que Marie était sa mère, et bien était mère de Dieu, Théotokos. Donc on voit tous ces liens, je trouve, à travers dans l'Église universelle, ce lien avec Rome, ce lien avec Éphèse, voilà, dans ce sanctuaire marial. Et puis, progressivement, les gens sont venus au puits. Il faut savoir qu'au tout début, sans doute et sûrement, il y avait un temple païen. Tout a été christianisé et au fur et à mesure, il a fallu agrandir ce sanctuaire pour tous ces pèlerins qui venaient de plus en plus nombreux. Mais ce mont à Nice, il n'y avait pas assez de place pour pouvoir accueillir tout ce monde, pour pouvoir agrandir exactement. Donc l'originalité de notre sanctuaire, c'est qu'à deux tiers, il est construit sur le vide. Ça a été agrandi au 11e, au 12e siècle. Et lorsque nous sommes dans la cathédrale, nous sommes sur une partie sur le vide et nous rentrons même par en dessous, sous la cathédrale pour pouvoir accéder à ce lieu où nous vénérons Notre-Dame du Puy. Parce que c'est bien dans ce sanctuaire qu'on vénère Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire. Spontanément, certains viennent lorsqu'ils voient Notre-Dame de France. On en reparlera là-haut, au-dessus du Mont Nice, sur le rocher Corneille. Ils disent, ah, bon, on a vu Notre-Dame du Puy. Non, c'est Notre-Dame de France de 1860. Tandis que là, la Vierge que nous vénérons, eh bien, c'est dans ce lieu où, suite à la tradition est apparue, et ce lieu où on vient de génération en génération. Parce que si on remonte, oui, à 430, et de génération en génération, on venait tout naturellement au Puy. On disait aussi qu'on venait au Puy Notre-Dame. Ça a eu différentes appellations. On venait au Puy Notre-Dame. Après, on a dit qu'on venait au Puy Sainte-Marie. Et non, voilà, dans le royaume de France, on venait. Le Puy était le lourd du Moyen-Âge. Et puis après, ça s'est appelé le Puy. Et puis le Puy-en-Velay, c'est plus récent, hein, c'est de 1988, au moment où on ne suit plus administratif pour pouvoir bien situer ce puits par rapport au puits de Dôme, par exemple, etc. Donc, ce sanctuaire, il avance, on va dire, dans le vide. Mais si on monte de l'autre côté, donc, par en dessous la cathédrale, on a 134 marches qui permettent d'accéder au sanctuaire, en laissant sur le côté l'Hôtel Dieu, qui est sur notre gauche, puisque cet Hôtel Dieu, et c'était dans la tradition de l'Église, avoir le souci, de tous ceux qui étaient malades, et notamment les pèlerins malades qui venaient au sanctuaire, il y avait cet Hôtel Dieu. Et puis après, on commence à pénétrer, et puis il y a une parole sur une démarche, une parole gravée en latin, et qui dit « Garde-toi du crime, approche de ce seuil avec précaution, car la Reine du Ciel veut être honorée avec un cœur pur. » Donc, tout de suite est averti celui qui franchit le seuil par ces grands escaliers. Et puis en dessous, nous avons déjà un premier porche. Et si on prend le temps de regarder, mais il faut bien regarder sur les porches, dans les chapiteaux, et il y a ce tétramorphe, c'est-à-dire ces quatre signes, un qui est l'ange ou l'homme, l'autre qui est l'aigle, celui qui est lion, celui qui est un taureau. Eh bien, ça représente les évangélistes. Et donc, on appelle la liturgie de la parole parce que c'est par la parole de Dieu, par les Écritures, qu'on se laisse, je vais dire, surprendre, ou que le Seigneur se laisse connaître, reconnaître. Et tout principalement dans cet aboutissement, dans l'apothéose, la personne même du Christ, avec donc la représentation de l'homme ou de l'ange, et pour saint Matthieu. Parce que saint Matthieu, il commence par la généalogie, montre... Voilà l'origine du Christ humainement, parce qu'il est vrai Dieu, mais en humanité, dans ce peuple de Dieu, il y a ce taureau. Taureau, ça fait souvenir des cultes, et l'évangéliste Saint Luc commence son évangile dans le temple. Il y a le lion, ça c'est pour Saint Marc, parce que l'évangile commence dans le désert. Et puis enfin, il y a l'aigle, avec ce regard perçant, l'évangéliste Saint Jean, qui diffère dans sa manière de raconter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, puisqu'il a un regard plus haut, et du coup il nous invite à la méditation. Voilà, c'est le premier porche. Puis il y a un deuxième porche où, avant d'entrer dans la cathédrale, et on est donc en dessous de la cathédrale, on a deux très vieilles fresques, 12e, 13e siècle, avec sur notre gauche, nous avons Marie, celle que nous vénérons, notre reine, qui est entourée d'Isaïe, de Jean le Baptiste, qui ont préparé la venue de Jésus. Et puis de l'autre côté, on a la transfiguration, avec Jésus entouré d'Élie et Moïse. Et au moment, sur la montagne, devant Pierre, Jacques et Jean, c'est là où toute sa divinité est manifestée. Et puis ça se resserre. Ça se resserre avec ce petit escalier qui a été rouvert voici 25 ans. Un tout petit escalier qu'on appelle l'escalier du ventre, ou escalier dit du nombril, et qui permet d'accéder directement dans le sanctuaire. Bien sûr, il est ouvert à la bonne saison quand il fait chaud, parce que sinon, avec l'air froid, tout passe. Et là, nous montons, et tout de suite, on est saisi déjà par la croix. Il y a une très belle croix lumineuse qui est au-dessus de l'autel et qui nous attire. C'est comme si elle captait tous les rayons de la lumière pour nous le distribuer, quoi. C'est vraiment la lumière de la résurrection qui nous éclaire. Et puis arrivé, on voit tout au bout tout là-bas, cette Vierge Noire, sur ce maître-autel, cette Vierge Noire auprès de qui on vient et qu'on vient porter hein, toutes nos intentions. Il y a notamment bien un cahier pour pouvoir mettre nos intentions. Nous pouvons mettre des neuvaines, des bougies neuvaines, des cierges. Ben voilà, on vient auprès d'elle apporter eh bien nos demandes et parfois aussi l'action de grâce parce que Marie répond à nos demandes. Cette Vierge Noire, c'est pas celle qui avait été vénérée pendant des siècles, parce que celle qui avait été vénérée pendant des siècles a été brûlée le 8 juin 1794. En effet, les révolutionnaires l'avaient récupérée et la place du Plot, ils l'ont brûlée. Brûlée, on dit que au moment où elle a brûlé, ben, y a un petit tiroir qui s'est ouvert avec un petit parchemin et là, eh bien, il y avait sans doute eh bien, toute la signification, pourquoi elle était noire, d'où elle venait, eh ben voilà, on ne le saura jamais. Pourquoi elle est noire, on ne sait pas. Est-ce que c'est à cause du bois? Est-ce que Saint-Louis, en revenant d'une croisade, eh bien, aurait ramené voilà, une statue noire? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est bien Marie qui nous accueille. Et ici, au puits, eh bien, régulièrement, elle a différents manteaux, des manteaux qui ont toute une histoire avec des dons faits de la part des fidèles, donc qui se déclinent avec les temps liturgiques, que ce soit le vert, que ce soit l'or blanc, que ce soit du bleu, que ce soit du violet, que ce soit du rouge. Et encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour remercier, aussi 2 ans, je pense à un couple, pour leurs 10 ans de mariage, eh bien, avait demandé le patron, et puis ils ont fait faire une belle robe, ils nous ont demandé la couleur qu'on souhaitait. Cette même Vierge noire, donc je n'ai pas totalement expliqué, on l'a remplacée du coup, et cette Vierge noire qui est là depuis 1844, eh bien, elle était quand même très ancienne dans une des églises du Puy, et c'est cette même Vierge, la précédente puis celle-ci, qui est portée en procession tous les 15 août. Ce sont des grandes festivités au Puy, même la ville se pare eh bien, de toutes ces banderoles en bleu, blanc, et procession depuis 1578, eh bien, elle est portée dans les rues et elle est vénérée, la procession du 15 août. Sachant que la veille au soir, eh bien, nous avons l'occasion de pouvoir faire une procession flambeau, qui est un peu plus courte, mais où on part du bas de la ville pour monter jusqu'à la cathédrale, mais sans avec la statue de Marie. Marie, elle l'accompagne le jour du 15 août. Et porté notamment par des pénitents, parce que nous avons une confrérie des pénitents blancs, une confrérie qui remonte dans le temps, puisqu'elle existe depuis 1584, et ils sont toujours aussi nombreux. Et dans cette même cathédrale, et bien juste à côté, il y a cette pierre des fièvres qui est là, qui est là pour la vénération des fidèles. Et souvent, en arrivant près de cette pierre des fièvres, et bien on peut la toucher. Mettre sa main dessus et puis déposer aussi eh bien tout ce qui fait notre vie. Jésus nous a bien dit venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous soulagerai. Et là eh bien nous pouvons déposer sur cette pierre, il y a une Pietà même juste à côté et certains même mettent des petits papiers, ils écrivent aussi des intentions qui glissent sous la pierre. Alors voilà. Voilà notre sanctuaire, Notre-Dame du Puy.
Alors vous avez également une très belle chapelle avec des reliques, Père. Hein.
Oui, de nombreuses reliques, la chapelle des reliques, c'est là où on célèbre notamment en ce moment l'hiver.
La messe de semaine.
Comment?
La messe de semaine peut-être l'été aussi.
La messe de semaine pendant l'hiver.
D'accord.
Eh bien, c'est là où il y a un certain nombre de reliques avec ce grand retable, où de nombreuses reliques, voilà, comme c'était un sanctuaire automatiquement, accueillait de nombreuses reliques à travers l'Europe. Et c'est là où il y a cette statue, cette ancienne statue, celle qui a été brûlée, eh bien on avait des plans assez précis, puisqu'elle avait été mesurée, ainsi de suite, et un sculpteur récent, il y a une vingtaine d'années, eh bien, a refait faire à l'identique la statue de l'époque.
Merci. Alors également, ce qu'on peut parler peut-être, c'est des jubilés, les différents jubilés qu'il y a eu à la cathédrale.
Oui, alors le jubilé remonte dans les siècles, puisque Notre-Dame, le sanctuaire du Puy, c'est Notre-Dame de l'Annonciation. Et lorsque, nous fêtons ça le 25 mars, et lorsque le 25 mars tombe, ou le Vendredi Saint tombe le 25 mars, donc c'est deux mystères hein, qui font notre foi, le mystère de l'Incarnation et le mystère de la Rédemption, et bien à ce moment-là, ce sont des grandes festivités. Donc avec l'accord de Rome, et bien à ce moment-là, c'est l'occasion de pouvoir faire une démarche jubilaire. Alors le dernier a eu en 2016, l'autre en 2005. Après, il faut remonter au XXe siècle. C'était en 1932 et avant 1921. Et le prochain, il est bien loin puisqu'il est prévu en 2157.
D'accord.
Voilà, donc ce Vendredi Saint tombera le jour du mystère de l'Annonciation.
On peut peut-être compléter en parlant un petit peu des statues de Saint-Jacques. Vous avez une à l'extérieur, une à l'intérieur.
Alors, on en a une, voilà.
Marches en montant.
Oui. Saint-Jacques de Compostelle, d'abord c'est le sanctuaire marial, même si on voit bien que à la télé ou ainsi de suite, on parle toujours le départ de Saint-Jacques, mais en tout premier lieu, c'est d'abord Marie. Et puis Godescalque au Xe siècle, vers 950, s'est mis en route vers ce sanctuaire Saint-Jacques de Compostelle, qui était en train de prendre de l'essor, et à son retour... Et on dit, la tradition veut qu'il ait ouvert cette Via Podiensis, cette voie vers Saint-Jacques. Et c'est à son retour, je crois qu'on en reparlera la prochaine fois, qu'il a, suite à la demande d'un chanoine, Trudanus, il a fait construire la première chapelle Saint-Michel d'Aiguille, tout en haut d'un piton volcanique.
Oui. Alors on peut peut-être appuyer sur une autre chose. Il a la grâce, chaque matin, d'avoir une messe pour le départ des pèlerins.
Oui, alors les pèlerins de Saint-Jacques, alors c'est à 7 heures à partir du 1er avril. En ce moment, on en a, là, d'une manière très ponctuelle, un ou deux. Mais alors, on va parler au moment où c'est la saison, comme on dit. En 2022, on a eu beaucoup de départs sur le chemin de Saint-Jacques, puisqu'ils ont été 20 000, près de 20 000 à participer à la messe et à la bénédiction. Et après la messe, il y a tout ce rituel de bénédiction. Alors après avoir présenté brièvement notre sanctuaire marial et puis ce départ de Saint-Jacques, on fait un petit tour, on demande d'où ils sont, alors on demande de lever la main, ce qui permet un peu de voir les provenances, et on voit que ça vient de tous horizons, de la France métropolitaine, mais aussi des départements outre-mer, et puis de d'autres pays, Europe, mais après plus largement, et qui viennent pour faire une démarche de pèlerinage. Alors certains vont faire les 2 mois et demi, il y a 1522 km en gros pour aller jusqu'à Saint-Jacques. D'autres vont faire des porçons. Parce qu'ils n'ont que 8 jours devant eux ou 15 jours. Ils sont tout seuls ou à plusieurs. Et sur ce chemin, on leur propose, s'ils le souhaitent, et il y a des bénévoles qui sont là tous les matins. On peut leur rendre honneur parce que tous les matins, ils sont fidèles pour être au service. On leur dit, si vous souhaitez, vous pouvez avoir l'évangile de Luc, puisque... Dans l'évangile de Luc, nous voyons notamment Jésus qui fait un bout de chemin avec les disciples d'Emmaüs. Et puis pour découvrir Jésus, pour s'attacher à lui, il faut le connaître. Alors on dit si vous le souhaitez, c'est un petit livret rouge, vous pouvez récupérer l'évangile selon saint Luc. On leur propose ici la prière du chapelet, on leur propose un chapelet, et puis aussi un petit dépliant qui permet de méditer. On leur explique brièvement comment fonctionne le chapelet, mais grâce au petit... dépliant, on découvre qu'on découvre le visage de Jésus grâce à Marie, avec les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères lumineux, les mystères glorieux. Et on leur propose aussi la prière de bénédiction, qui est dite quelques instants plus tard, s'ils veulent la voir, parce qu'elle les touche tout particulièrement. Et puis une petite médaille. Sur cette petite médaille, il y a Notre-Dame du Puy au verso, puis au recto, il y a la coquille Saint-Jacques. Et vient ensuite... cette prière de bénédiction avec la lecture de l'évangile des disciples d'Emmaüs, cette prière de bénédiction, et puis la bénédiction en tant que telle, avant de terminer par le Salve Regina. Voilà, cette antienne mariale, et la tradition veut que ce soit Mgr Adhémar de Monteil, évêque du Puy, qui au XIe siècle a écrit cette prière à Notre-Dame. Donc nous chantons le Salve Regina, c'est vraiment... le chant de la cathédrale du Puy. Et il y a enfin ce rituel. Je parlais de ce petit escalier en présentant ce sanctuaire lorsqu'il est ouvert. Pendant la célébration, toute célébration, bien sûr, s'est fermée. Et Et bien là, à ce moment-là, on ouvre. Ce sont des grilles qui s'ouvrent. Et puis après, il y a les deux dernières portes. Il y a quel tout petit escalier, les deux dernières portes. Et là, on voit, alors dans le sens inverse par rapport à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, on voit la rue des Tables. Et comme nous leur disons, ben voilà, le chemin commence pour vous, tout un chemin personnel, un chemin avec le Seigneur, qu'on soit croyant, qu'on soit en recherche. Ben voilà, et nous voyons, et c'est très très beau de voir cette rue des Tables toute pavée, et de se dire, ben voilà, c'est toute une aventure. Et alors, ils se font après bah, tamponner la crédentiale, voilà, c'est un peu ce passeport voilà, qui permet de d'étape en étape bah, de voir la progression, et puis c'est tous les souvenirs aussi pour eux après de retour à la maison lorsqu'ils revoient leur crédentiale.
Alors, la crédentiale, ils peuvent la trouver à la librairie de la cathédrale.
Tout à
Voilà, c'est
fait.
important pour les personnes qui voudraient démarrer. Et également, on va terminer cette première émission. Peut-être nous parler un petit peu du musée du Camino qui est juste à côté?
Oui, alors Musée Camino, c'est une volonté de Monseigneur Henri Brincard, voilà, qui voulait faire découvrir ce chemin. Et Monseigneur Brincard, avec toute une équipe, il connaissait beaucoup de monde. Bah, dans cet ancien hôtel particulier, l'hôtel Saint-Vidal, eh bien, ça a été l'occasion de, et c'est l'occasion, en y allant, eh bien, de découvrir le chemin. Voilà, alors on descend, voilà, il y a plusieurs étages, dans le sens sous-sol. Et au fur et à mesure, eh bien, on se plonge dans ce chemin. Alors, il y a de beaux, très beaux textes de méditation, il y a des photos, on voit le chemin, on suit le chemin. Alors, pour ceux qui se préparent, ben, ça leur permet déjà d'avoir une vision de ce qu'ils vont vivre. Et puis, pour ceux qui l'ont vécu, eh bien, c'est l'occasion, ben, de se replonger dans tout ce qu'ils ont pu découvrir, dans ce qu'ils ont vécu intérieurement, parce qu'il s'en passe des choses dans le cœur. C'est bien ce qu'on dit chaque matin, il va s'en passer des choses dans leur cœur. C'est un lieu où on peut venir se reposer par ailleurs, parce qu'on parle de cette scénographie. Mais c'est un lieu aussi où on peut se poser, boire un verre, voilà, l'ombre du clocher. Et puis tous les soirs, il y a les amis de Saint-Jacques qui accueillent ceux qui vont partir dès le lendemain, dès 17h30. Alors c'est à partir du mois d'avril. Voilà, pour se sentir accueilli, pour pouvoir répondre aux premières questions, des pèlerins.
Eh bien, Père Olu, au nom de Radio Maria, il me reste à vous remercier pour avoir accepté de participer à cette émission.
Chers auditeurs, c'était notre émission Sanctuaire et Communauté. Vous étiez avec le Père Jean-Loïc Aulu du Puy-en-Velay. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.